Non, mais qu'on soit très clair, la preuve d'un, d'une agression sexuelle, à part une caméra de vidéosurveillance, je suis désolée, mais elle n'existe pas. Et encore même, la caméra de vidéosurveillance qui filmerait la scène, on pourrait dire, oui, mais avant, ce qui s'est passé avant ce petit bout que vous filmez, peut-être qu'elle lui a dit oui, et que finalement, devant la caméra, on a l'impression qu'il la force, mais c'est un jeu. Donc de toute façon,
il y a une enquête.
La preuve stricto sensu, non mais la preuve, vous me parlez de preuve, la preuve stricto sensu, dans ces histoires-là, elle n'existe jamais.
Petit souci technique, au lieu du jingle, la petite musique qui devait distinguer le biais politique de notre plateau qui suit ce que l'on avait évoqué dans une première partie où il était question donc des relations entre ces affaires de viol et la justice dans cette journée que France Culture organise sur les thèmes de sexe et pouvoir. Nous étions en votre compagnie, Claire Doubier, vous êtes avocate pénaliste, vous avez eu l'occasion de suivre un certain nombre de ces procès du côté des victimes comme du côté des criminels. Stéphane Durand-Soufflant, je vous accueille, vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire au Figaro et co-auteur avec Pascal Robert-Diard de Jour de Crime. Et la personne qu'on vient d'entendre, c'est Anne Jouan, c'est la journaliste qui est à l'origine de l'enquête publiée sur Nicolas Hulot pour l'Hebdo, ce nouveau magazine avec donc deux articles distincts, un article qui évoquait une affaire qui est en quelque sorte dégonflée et une autre affaire ancienne. Et j'ai envie de vous poser une question embêtante, Stéphane Durand-Soufflant. Auriez-vous publié cette affaire concernant Nicolas Hulot? Les règles sont-elles en train de changer en matière d'affaires de mœurs?
Moi, je l'aurais pas publié, c'est absolument clair. Vous appelez ça une enquête, vous êtes gentil. C'est pour moi pas un travail correct. Parce que la première affaire, comme vous le dites, la soi-disant victime dit elle-même qu'elle ne l'est pas. Et quant à la seconde, il s'agit d'une plainte qui a été classée sans suite en 2008, qui portait sur des faits qui étaient de toute façon prescrits. Mais elle a été classée pour deux raisons. Premièrement, les faits n'étaient pas établis et de toute façon, c'était prescrit. Mais premièrement, les faits n'étaient pas établis. Et c'est, je trouve, un peu facile de publier des informations comme ça, parce que effectivement, il y a une plainte classée sans suite. Ben voilà, c'est fini depuis 2008 cette histoire.
Claire Doubier, vous qui êtes avocate.
Oui, la vraie question, c'est est-ce que c'est une information? En réalité, on n'a dans cet article aucune information.
Eh ben écoutez, c'est pas moi qui vais vous répondre, c'est Patrick de Saint-Exupéry, le directeur de l'Hebdo. Il était au micro de Patrick Cohen sur Europe 1. Écoutez sa réponse.
Bien sûr que c'est une affaire dérangeante. Simplement, nous sommes journalistes. Nous avons une information qui est confirmée. Si vous ne la mentionnez pas, vous faites quoi?
Oui.
Donc, vous savez, vous ne gardez pas pour vous, vous savez, c'est confirmé. C'est le travail du journaliste de dire, bien sûr que c'est dérangeant, bien sûr que ça pose énormément de questions, bien sûr que je vois bien le débat qui se noue autour de cette histoire.
Le travail du journaliste, il a
bien
des
sûr.
Limites, sinon il n'y a plus de limite à la transparence.
Quelles
c'est
sont
la,
les
la prescription,
sont les
l'amnistie, le droit à l'oubli, la protection, le respect de la vie privée, tout ça ne compte pas et ne compte plus face au besoin de tout savoir sur les hommes publics.
Moi, ce que j'ai entendu, c'est que quelqu'un, Nicolas Hulot, a dit que cette affaire a été jugée. Ça n'est pas le cas.
Stéphane Durand-Soufflant, vous en pensez quoi? Est-ce que ça n'est pas une information? Après tout, peut-être a-t-il raison, Patrick de Saint-Exupéry. Ces faits, ils sont avérés, donc c'est une information?
Non. L'information aurait pu être, par exemple, de dévoiler qu'à l'époque, cette plainte avait été classée sans suite sur ordre du gouvernement, je sais pas quoi, qu'il y avait un scandale là-dessous. Et ce n'est pas le cas. Moi, j'ai lu l'article de l'Hebdo, évidemment, comme tout le monde. Il n'y a pas dedans d'éléments du procès-verbal de la plaignante. Il n'y a pas dedans d'éléments du procès-verbal de Nicolas Hulot à l'époque de ses explications. Il n'y a pas dedans d'éléments du document de classement sans suite du parquet de Saint-Malo. Moi, selon les informations que j'ai eues de sources, comme on dit, judiciaires extrêmement élevées, à l'époque, les magistrats ont tous considéré qu'il n'y avait dans la plainte de cette jeune femme aucun élément constitutif qui aurait pu permettre de poursuivre quiconque pour viol et que même si ça n'avait pas été prescrit, elle aurait été classée sans suite. Voilà moi ce que j'ai recueilli comme information.
Ça veut dire que ce que vous dites finalement, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations. Parce qu'il y a deux regards que l'on peut poser sur cette affaire. Le premier regard consiste à dire que il y a aujourd'hui une forme d'indécence à publier ce type d'informations et le second regard consisterait à dire qu'il n'y en a pas assez et qu'il faut d'autres éléments.
Mais on vit dans un état de droit, il y a une justice. Donc, une jeune femme est allée porter plainte contre une personnalité. Il se trouve que c'est une personnalité. Et la justice a regardé et elle a classé sans suite. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que les gens n'ont pas le droit d'être tranquilles une fois que la justice a dit « circuler, il n'y a rien à voir »
Claire Doublier.
Mais je suis absolument d'accord. Je pense que cet article ne relève absolument pas des critères d'une information. Et au surplus, c'est un article qui empêche celui qui est visé de se défendre. On a un arsenal juridique qui vient dire, un, les faits n'ont pas existé, en tout cas sur le terrain du consentement, deux, c'est prescrit, fin de l'histoire. Quel est l'intérêt de se faire le relais d'une parole sur laquelle aucun travail d'enquête n'a été réalisé?
Ceux qui disent, par exemple, que... les médias, donc nous, Stéphane Romer soufflant, ont aujourd'hui la possibilité de rétablir l'équilibre des forces entre les puissants et les faibles, autrement dit les victimes, que nous aurions un rôle dans le fait de porter à la connaissance du public un certain nombre d'affaires qui pourraient autrement être étouffées ou ne pas être portées à la connaissance de tous. Qu'en pensez-vous ?
Ben oui, mais là, dans l'affaire dont on parle, il n'y a absolument pas de cas d'étouffement, c'est absolument pas dit. Je prends une autre affaire, l'affaire d'Outreau, que tout le monde connaît. S'il n'y avait pas eu les médias, on serait sans doute allé vers une catastrophe judiciaire encore plus considérable. Il se trouve que là, il y a eu un procès, la justice est partie, les journalistes ont suivi, plus ou moins bien au début, plus ou moins bien à la fin. Mais enfin, on a quand même contribué à faire la part des choses. Donc oui, bien sûr que les médias sont utiles, mais on dévoile quand il y a des choses à dévoiler.
Vous trouvez que les médias sont utiles ? Aujourd'hui, il y a une forte pression médiatique sur un certain nombre de procès pour mœurs, qu'il s'agisse de procès impliquant des responsables politiques, des procédures, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore nécessairement de procès, que ce soit donc dans l'affaire qu'on vient d'évoquer avec Nicolas Hulot, où là, les faits sont prescrits, mais semble-t-il, il y aurait une plainte en diffamation, pour l'affaire concernant Gérald Darmanin, les deux affaires, et puis il y a aussi toute une série de faits divers qui sont aujourd'hui quasiment suivis en temps réel. Est-ce que ça modifie à la fois le travail de la justice et votre travail, Stéphane Durand-Soufflant, vous qui êtes un chroniqueur judiciaire, ce qui est une profession ancienne parmi les journalistes?
Ouais, moi, je travaille à l'ancienne, mais moi, je trouve que la justice, dans ce maelstrom, tient plutôt bien la route. On le voit dans les décisions qu'elle prend, qui peuvent être courageuses et mal comprises par l'opinion publique. Mais cette espèce de déferlement sur les réseaux sociaux, notamment, moi, je trouve, change une chose, c'est que ça chauffe encore plus à blanc l'opinion publique, ça fait miroiter encore plus à des victimes authentiques. On parlait tout à l'heure hors antenne des attentats. Il y a des gens qui, évidemment, ont souffert de ces attentats, mais on leur désigne des gens en disant « ce sont des complices, regardez comme il est affreux, etc., il faut le condamner ». Et arrivé, on l'a vu avec Jawad Ben Daoud à son premier procès, il a été relaxé. Des faits qui ont été reprochés. On a dit à des gens, ce type-là est un complice, en gros, des terroristes. Ben non. Voilà. Et il y a une espèce d'entreprise sur les réseaux sociaux qui chauffe à blanc l'opinion publique et qui est très dangereuse.
Vous dites, je travaille à l'ancienne, ça veut dire quoi ?
Avec un cahier. Je prends des notes. Non, mais.
Soit, mais en dehors de ça.
Eh ben, en fait, à l'ancienne, c'est-à-dire que quand j'ai des informations, j'essaye de les vérifier. Je me demande si ça vaut la peine de les publier, de creuser éventuellement un trouble, de mettre des gens en difficulté. Et si j'ai pas assez, je publie pas.
On a parlé de l'affaire Hulot. Les affaires concernant Gérald Darmanin, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel regard de journaliste vous portez sur ces affaires ?
Ben, le même.
C'est-à-dire
qu'il y a pour l'instant des allégations contre un homme qui se trouve être ministre. La justice est saisie, je crois. On peut peut-être la laisser faire son travail. On va voir ce qu'elle dit, la justice.
Mais est-ce que c'est le rôle des journalistes d'en parler ? Est-ce que vous n'en auriez pas parlé ? Est-ce que vous en auriez parlé autrement ?
Écoutez, moi, ce que j'ai vu de la deuxième plainte, cette histoire d'échange d'un appartement contre de prétendues faveurs sexuelles, je ne suis pas un grand spécialiste des dossiers d'Darmanin, hein, mais... L'article m'a laissé, on va dire, un peu sur ma faim, parce que je n'ai pas compris très bien ce que cette femme avait obtenu ou pas obtenu, ce que Darmanin aurait ou pas proposé en échange, je ne sais pas. Ça me paraît extrêmement flou et trouble. Voilà. Maintenant, c'est entre les mains, je crois, du procureur de la République. On va faire une enquête, on va voir ce que ça donne. Et si, d'aventure, cette enquête devait être classée sans suite, ben, il faudrait dire c'est classé sans suite. On peut pas... Les journalistes, je pense qu'il y a un moment où notre rôle s'arrête quand la justice est passée et que rien ne permet de dire qu'elle n'est pas bien passée.
Maître Doublier, vous en pensez quoi, vous ?
Je pense que la difficulté, c'est cette zone grise entre le moment où le fait est dit et le moment où l'institution judiciaire est saisie. Et cette zone grise, aujourd'hui, elle occupe tout l'espace. Et c'est ça la difficulté. Et effectivement, venir dire « Monsieur Darmanin fait l'objet d'une plainte », c'est une information. Mais ensuite, il faut que le journaliste s'arrête. Et il faut aussi que l'avocat s'arrête.
Ben non, puisque ce que vient de dire Stéphane Durand-Soufflant, je parle devant lui, c'est que par exemple, pour l'affaire Hulot, on n'avait pas suffisamment d'informations. Alors il faut savoir, est-ce que le journaliste doit en dire plus ou il doit en dire moins ?
Ben, dès l'instant où il n'a pas plus à en dire, il ne doit pas occuper l'espace. Et il doit laisser l'institution judiciaire faire, parce que bon an, mal an, effectivement, aujourd'hui, l'institution judiciaire, avec son temps propre, aboutit à des décisions qui sont des décisions tout à fait raisonnables et courageuses.
L'administration de la preuve dans ce genre d'affaires, ce qui serait reproché à Gérald Darmanin aujourd'hui, c'est d'avoir tenté d'échanger un appartement contre des faveurs sexuelles. Dans ce type d'affaires, l'administration de la preuve est-elle possible, est-elle envisageable, Maître Doublier ?
L'administration de la preuve, elle est forcément envisageable et elle est forcément possible. Elle est compliquée, mais ça n'est pas parce qu'elle est compliquée qu'elle est impossible. Ensuite, si la preuve n'a pas été démontrée, bah, il faut accepter les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est que effectivement, il peut y avoir un classement sans suite.
J'entendais tout à l'heure, donc cette petite erreur de jingle, mon excellente consoeur Anne-Jean, que j'aime beaucoup par ailleurs, parce qu'on a fait bureau commun pendant des années, dire en matière sexuelle, il n'y a jamais de preuves. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des affaires de mœurs où il y a des preuves. Parce que la plaignante se rend immédiatement dans un service de police et que des preuves médico-légales peuvent être relevées. Donc il peut y avoir des preuves, il peut y avoir des témoignages, il peut y avoir des tas de circonstances qui font que sans preuves matérielles, sans ADN, on peut prendre, accréditer une plainte. Mais c'est pas parce qu'on se plaint, en manière générale, qu'on a raison. Moi, je peux porter plainte demain contre vous pour escroquerie.
Voilà. Vous aurez escroqué sur quoi ?
Faites pas l'innocent. Mais bon, ça sera classé sans suite, mais j'aurais quand même porté plainte.
Maître Doublier, et pour ceux qui ne connaissent pas les procédures judiciaires comme moi, on se dit en fait, et c'est pour cela que ce que dit Anne Jouan fait sens pour nous qui n'y connaissons pas grand-chose. On se dit souvent que c'est parole par contre-parole, surtout plusieurs années après, et surtout si on rallonge le délai de prescription, et on comprend pourquoi aujourd'hui certains veulent rallonger le délai de prescription. Alors comment faire ?
Alors, c'est vrai que le rallongement du délai de prescription a un impact sur la preuve, ce qui fait que on va se retrouver probablement avec moult procédures qui vont se terminer par des classements sans suite ou des non-lieux, au détriment de victimes à qui on aura dit « libérer la parole, ça va être formidable ». Au final, je suis pas du tout convaincue que ce sera formidable. Maintenant, dans ce type d'affaires, des enquêtes ont lieu et vous avez une foultitude d'éléments qui permettent de constituer des faisceaux d'indices qui sont générateurs d'une preuve.
Moi, j'ai assisté, Stéphane Durand-Soufflant.
J'ai assisté il y a quelques années de ça au procès d'un homme politique dans l'Est de la France, accusé par sa nièce de l'avoir violé. C'était des faits extrêmement anciens. Il n'y avait pas de preuves matérielles au sens classique, médico-légal. Cet homme a été condamné parce que la parole de la victime était extrêmement crédible. Les faits qu'elle rapportait pouvaient tout à fait cadrer avec des emplois du temps, etc., etc. Des témoignages extérieurs sont arrivés qui l'ont accrédité. L'homme a été condamné. Donc, on ne peut pas dire que d'abord, on ne peut pas dire que la justice est bienveillante avec les agresseurs sexuels, ça c'est pas vrai. Aller dans les correctionnels, les cours d'assises aujourd'hui sont occupées aux deux tiers par des affaires de mœurs, des crimes sexuels pour être très clair. Les correctionnels, il y a des chambres qui tournent en continu pour juger des agresseurs sexuels. Ces gens sont condamnés et sont dans les prisons, c'est ce qu'on appelle les pointeurs, il y en a plein.
Maître Doublier.
Oui, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on ait bien conscience qu'on est dans un système où la parole de la plaignante ou du plaignant est une parole qui, a priori, est vraie. Et on est très souvent dans un contexte où on doit se battre contre les évidences pour venir mettre en exergue le fait que la parole du plaignant n'est pas nécessairement ab initio une vérité. Le point de départ, c'est ça. C'est un vrai déséquilibre, d'autant plus existant aujourd'hui que les réseaux sociaux font le job pour que ça le soit.
Bon, mais alors, on a dit beaucoup de mal des journalistes. Il faudrait quand même dire aussi un peu du mal de la justice, parce que, Stéphane Durand-Soufflant, les décisions des juges ne sont pas finalement nécessairement exemptes de toute critique. Vous qui êtes chroniqueur judiciaire, vous le savez bien, vous avez parlé de l'affaire Doutreau, qui était quand même un cas archétypique d'erreur judiciaire et de catastrophe morale, humaine. Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, dans votre quotidien de journaliste spécialisé dans ce domaine-là, des moments où vous dites que la justice ne remplit pas son rôle?
Mais bien sûr que la justice est critiquable, c'est une activité humaine, donc statistiquement elle commet des erreurs.
Non mais plus spécifiquement que cela, je veux dire.
Mais ben, nous on est là, nous journalistes, on est là, on la regarde cette justice, on met le doigt où ça fait mal, et oui, de temps en temps...
Par exemple, qu'est-ce qui vous choque dans ce que l'on a vu récemment?
Moi, j'ai envie de la défendre, la justice. J'ai envie de défendre cette institution parce que c'est quand même un rempart entre cette voix de la foule qui monte et qui a tendance à maintenant, qui a les réseaux sociaux pour s'exprimer, cette volonté de lynchage. Et c'est quand même... On a inventé la justice pour mettre un filtre entre l'envie de vengeance et des gens qui étaient accusés.
Mais justement, quand on voit, par exemple, le procès du fameux logeur Jawad Ben Daoud, qui a été accusé d'avoir logé en connaissance de cause les terroristes... des terrasses parisiennes, est-ce que on ne voit pas à la fois donc effectivement un homme qui est relaxé, donc la justice est passée, mais est-ce qu'il était utile malgré tout de le juger? Est-ce que ça n'était pas assez clair finalement que cet homme était ignorant des faits? Je vois un maître d'oublier qui fait non de la tête.
Allez-y, Claire.
Non, mais d'abord, je précise que le parquet général a fait appel. Et que on ne sait pas ce que cette affaire va devenir en appel. Ensuite de ça, moi je constate que malgré une énorme pression, l'institution judiciaire, elle a appliqué les principes. Il y a des preuves, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, on relaxe.
Dans le cas du procès du frère de Mohamed Merah, on a un homme qui peut professer des idées qui nous paraissent abominables et qui, j'imagine, dans la grande majorité des cas, nous paraissent tout à fait abominables. Mais, semble-t-il, sa culpabilité dans les crimes de Merah n'a pas été établie. On a malgré tout un homme qui a été condamné assez lourdement.
Oui, alors j'ai couvert ce procès-là, celui de Jawad Ben Daoud aussi, dans le procès d'Abdelkader Merah, les choses... franchement, vous savez, quand on assiste au procès, évidemment, on essaye de le raconter le mieux possible, mais on comprend des choses que le public ne comprend pas. Et il y a des choses qui apparaissent évidentes à l'audience, parce que l'audience, contrairement à la rumeur et aux réseaux sociaux, c'est quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire que quand l'avocat de la défense avance un élément, l'avocat général peut immédiatement le contrer et vice-versa. Donc Abdelkader Merah a été accusé d'être le complice de son frère Mohamed Merah, il n'y avait dans le dossier aucune preuve permettant d'attester cela. Il a pris 20 ans pour association de malfaiteurs terroristes.
C'est justement ça. Expliquez-moi, parce que c'est quelque chose... Encore une fois, c'est-à-dire, ce type paraît abominable, ou en tout cas, ses idées, les idées qu'il défend, le sont.
C'est un islamiste, convaincu.
Mais alors, le fait d'avoir telle idée... Dès lors que cette idée n'est pas diffusée, dès lors qu'il n'y a pas d'appel à la haine, on a le droit d'avoir des idées quand on les garde pour soi, je crois.
Alors, sous le contrôle de Maître d'Oublier, mais l'association de malfaiteurs terroristes, l'association de malfaiteurs, c'est quelque chose d'assez fourre-tout. Il se trouve qu'Abdelkader Merah évoluait dans une sphère peuplée de gens extrêmement dangereux, dont plusieurs sont actuellement morts ou vivants, mais en Syrie, des islamistes convaincus qui prêchaient le djihad. Et cet entourage est extrêmement, connoté, et la cour d'assises a estimé que de cela, il était coupable.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas se dire tout simplement que faute d'avoir les véritables coupables, faute d'avoir pu juger Merah, on a jugé son frère et finalement il a en partie écopé de la peine qu'on aurait aimé infliger à son frère.
Ça c'est le problème un peu de ces affaires de terrorisme, des gros attentats de ces dernières années, c'est-à-dire que les auteurs la plupart du temps sont morts et donc on juge par défaut des survivants.
Et parfois, mais alors, est-ce que ça c'est pas une critique quand même que l'on peut adresser à la justice?
Les gens qui sont jugés, ils sont quand même poursuivis pour des crimes ou des délits pas imaginaires. Après, ils en répondent.
Mais vous dites vous-même que l'accusation est donc de complicité, complicité de terrorisme, elle est tombée. C'est association de malfaiteurs qui est demeurée, que c'est une accusation fourre-tout.
Oui. Oui, parce que l'association de malfaiteurs n'implique pas d'avoir commis un attentat pour. Mais c'est pareil dans l'association de malfaiteurs non terroristes. On peut être jugé pour une association de malfaiteurs classique sans avoir braqué une banque.
Maître Doublier, qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'effectivement, l'association de malfaiteurs, c'est une prévention qui est une prévention fourre-tout et qui vise en fait à condamner des gens qui ne sont objectivement pas passés à l'acte. Voilà. Ensuite, moi, je trouve que ce jugement Mera, c'est un jugement qui, à nouveau, fait la démonstration que l'institution judiciaire sait faire la part des choses. Et la difficulté, c'est que cette médiatisation à l'extrême et via les médias classiques et via les réseaux sociaux fait que l'opinion publique est obligée d'avoir un point de vue. Sauf qu'elle a un point de vue dans un contexte où elle n'a pas accès à toutes les informations. Et du coup, nécessairement, une fois que la justice intervient, il y a une dichotomie et c'est générateur de risques.
Et là aussi, on voit dans la médiatisation et la manière dont les faits divers, parce qu'il y a eu deux affaires récentes, tout d'abord le meurtre de la petite Maëlys, et puis le meurtre commis par Jonathan Daval, qui a tué sa femme alors qu'il avait présenté cette mort comme...
Qui dit qu'il l'a tué.
Qui dit qu'il l'a tué, puisque même quelqu'un qui avoue est présumé innocent, c'est ce que j'ai appris récemment. Mais justement, quand vous voyez ces procès, qui sont des procès extrêmement médiatisés, avec une conférence de presse du procureur de la République qui est en direct sur BFM, qui est un fait qui, a priori, peut paraître assez surprenant. Quand vous voyez ça, est-ce que vous vous dites qu'on a une médiatisation qui modifie la donne ? Est-ce qu'on avait déjà le cas avec d'autres faits divers bien plus anciens, comme l'affaire Grégory, Stéphane Durand soufflant ?
La médiatisation a toujours existé, mais c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, l'Internet, etc., ça prend une proportion bien plus grande. Éric Dupond-Moretti, l'avocat, a une très jolie formule, il dit « l'aveu est un mensonge comme les autres ». C'est-à-dire qu'on se raccroche... Il n'y a jamais tout dans l'aveu. Les gens qui avouent, ils avouent ce qu'ils veulent bien avouer. C'est difficile d'avouer des choses horribles. Et les médias font la course devant la justice, vont chercher des témoignages avant les enquêteurs. Il y a une espèce de folie furieuse avec ces images en direct de journalistes devant des gendarmeries, devant des palais de justice, qui dramatisent terriblement. Et la procureure de la République de Besançon a fait une conférence de presse absolument remarquable, en rappelant aux journalistes que la présomption d'innocence, que le destin d'un homme était en train de se jouer, et que la mémoire d'une femme était salie à chaque seconde. J'ai trouvé que c'était, de la part d'un magistrat, des mots d'une noblesse et d'une pertinence absolue.
Il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans cette conférence de presse. Le procureur a dit, dans le cas de Nordal Lelandais, qui aurait tué la petite Maëlys, il a dit que cette mort était accidentelle. Comment le savoir alors que le procès n'est pas advenu ?
On en revient, l'aveu est un mensonge comme les autres. Apparemment, Nordal Lelandais a reconnu avoir tué cette petite fille, mais dit que c'est accidentel. Mais on en est là.
Le procureur n'a pas utilisé de conditionnel dans sa déclaration.
Je ne sais pas, écoutez, je ne l'ai pas entendu, mais si ça ressort des aveux de Nordal Lelandais.
Si c'est le cas, c'est évidemment une erreur de langage. En indiquant cela, il s'est simplement fait le relais de la parole de l'intéressé. Mais il est évident que... il ne peut pas se prononcer sur la réalité de cette parole pour l'instant.
Stéphane Durand-Soufflant, en conclusion, est-ce que vous êtes inquiet sur la manière dont la justice se rend ? Finalement, j'ai l'impression que vous êtes plus critique vis-à-vis des journalistes que vis-à-vis de la justice.
La justice, il faut lui donner des moyens. Voilà. Mais dans l'ensemble, moi je trouve que il y a des erreurs, il y a évidemment des scandales de temps en temps et on est là pour les dénoncer. Mais il faut quand même pas désespérer de la justice en France. Il y a quand même des magistrats qui sont épatants.
Maître Doublier, une conclusion à ce sujet.
La conclusion, paradoxalement, elle est exactement la même que celle de Monsieur Durand-Soufflant. Je pense qu'aujourd'hui, heureusement que l'institution judiciaire existe pour calmer les choses et les rationaliser.
Stéphane Durand-Soufflant, votre livre coécrit avec Pascal Robert-Diard, Jour de crime aux éditions L'Iconoclaste.